chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente. Chute, on écoute la télé. Avec DSM Fabricant, votre spécialiste du revêtement sol et mur sans raccord, 116 cours Paul Doumer à Sainte. C'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Bonjour à tous, comme chaque lundi à 13h, ravi de vous retrouver pour votre émission Chute, on écoute la télé sur Attitude.
Chute, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle eh bien une émission chargée qui nous attend. On va démarrer dans un instant, sans plus tarder, avec un coup de cœur ciné, notre premier, puisqu'on en a deux aujourd'hui, avec le coup de cœur ciné consacré à Mon Bébé. Thaïs Alessandrin, Lisa Azuelos et Sandrine Kiberlin vont nous rejoindre dans moins d'une minute. Et puis nous terminerons l'émission avec Rebelle, puisque Alan Mauduit eh bien sera là, accompagné d'Audrey Lamy et Cécile de France. Autre grand rendez-vous en fin d'émission. Et entre les deux, nos coups de cœur télé eh bien de cette semaine, Mathieu Madignan qui viendra nous parler des bracelets Rouge qui revient ce soir sur TF1 pour sa saison 2. Nous recevrons également Nadia Farès qui est à l'affiche des Ombres Rouges, la première fiction C8, ça sera demain soir sur C8 pour le grand début de cette saga événement. Nicolas Gobbe sera également avec nous pour le film Sous la peau qui sera diffusé demain sur France 3. Et puis Légitime, c'est le téléfilm événement primé au Festival de Luchon, ça sera mercredi sur France 2. Et bien on recevra toute l'équipe dont Thierry Neuvik tout à l'heure. Donc rendez-vous évidemment à ne pas manquer. Alors sans plus tarder, on va démarrer tout de suite notre spécial Mon Bébé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film Mon Bébé qui sort mercredi dans les salles. Et quel coup de cœur, moi j'ai eu la chance de le voir au Festival de Alpes d'Huez en avant-première. Et on a la chance de recevoir sa réalisatrice Lisa Azuelos qui est avec nous. Bonjour Lisa.
Bonjour.
Et qui n'est pas venue toute seule puisqu'elle est venue avec Sandrine Kiberlin qui est avec nous. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Et Thaïs Alessandrin qui est avec nous aussi. Bonjour Thaïs.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on a exploré, Lisa, avec LOL, la maman et sa fille. Je me rappelle évidemment de ce duo avec Christa Terré et Sophie Marceau. Et là, on va explorer le départ de la petite dernière dans ce film qui a été, vous allez vraiment osciller entre rire et verser certainement quelques petites larmes pendant le film. C'est un ascenseur émotionnel, ce film, Lisa. C'est comme ça que vous l'avez voulu ?
Oui, absolument. Enfin, pour moi, quand on dit c'est un film de comédie, j'ai toujours dit que, sans vouloir faire ma Balzac, j'ai toujours dit que je faisais de la comédie humaine. Parce que la comédie humaine, c'est ce qui permet de mettre en avant les émotions sans filtre. Et c'est vrai que j'ai vraiment fait en sorte qu'il y ait des scènes très comiques parce que l'humour me permet de dire plein de choses. Mais je crois que l'humour ouvre aussi d'autres canaux qui font que les gens pleurent d'autant plus facilement. Un peu comme quand on peut rire à un enterrement, par exemple. C'est un peu le même principe, ce film, où on est tout chakra ouvert, en fait, et on rit et on pleure, parfois même simultanément.
Alors c'est une maman un peu sans filtre, hein, justement, aussi, qui dit des fois des choses horribles, mais que n'importe quelle maman pourrait se retrouver, justement, dans cette maman-là, où des fois, elle est à bout de ses enfants.
Oui, elles ont l'air de s'y retrouver. Quand on l'a présenté à l'Alpe d'Huez, il y a eu tellement de rires de femmes qui étaient sans doute à peu près les mêmes que nous. Donc on a tapé juste, je crois, parce que c'est une mère qui aime ses enfants, mais qui est dépassée par l'âge qu'ils ont, dépassée par tout ce que ses enfants nous apprennent, en fait. Nos enfants nous apprennent plein de choses, et de l'époque, et de ce qu'ils vivent, et de leurs sentiments qui sont différents des nôtres, mais qui sont quand même, voilà. Et elle a une façon de s'exprimer qui est sans filtre, sans tricherie. Elle est comme on est avec nos enfants, Lisa et moi, c'est-à-dire c'est de l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de. Et quand elle se fâche contre eux pour des trucs où elle a raison de se fâcher, c'est aussi contre elle-même qu'elle se fâche. Donc elle a des colères, des dérives comme ça qui sont celles qu'on connaît toutes, à la limite de l'hystérie quand on monologue sur nous-mêmes parce que on trouve injuste le claquement de porte au moment même où on a l'impression de les aider par-dessus tout. C'est-à-dire qu'on vit en sachant nous. Mère que nous sommes, en sachant que c'est le centre de notre vie, que c'est notre priorité absolue. Donc quand, une critique est toujours malvenue, on a l'impression que tout s'effondre quand nos enfants nous critiquent tellement on leur donne tout. Mais en même temps, c'est très légitime. On leur demande pas de nous remercier, hein. On fait ça par bonheur et par amour. Donc tout ça est montré dans le film. Puis le film, il traite, comme Lisa sait le faire, notre époque, mais avec, toutes ces générations, c'est-à-dire la génération de ces femmes-là, mais la génération de Thaïs et de cet âge-là, et la génération du père de l'héroïne, Héloïse, de Patrick Chesnais. Il y a tous les âges comme ça, et la façon dont on s'aime à tous les âges, Voilà, et donc c'est pour ça
plusieurs époques.
Oui, c'est pour ça que tout le monde s'y retrouve, c'est que et puis la vie, on se raconte pas d'histoire, on passe par des voilà, par des moments où d'effondrement qui font rire malgré nous, comme disait Lisa, c'est des moments parfois très tristes qui font rire. C'est pour ça qu'il faut jamais chercher à faire rire quand on joue, mais et dans le film, il y a des moments assez émouvants qui suscitent le rire, ouais.
Thaïs, premier grand rôle au cinéma et qui plus est mis en scène par maman, c'est pas un secret. Qu'est-ce que ça fait, Thaïs ?
Bah, c'est super agréable de jouer avec sa mère, hein. Moi, c'est toute ma vie, j'ai fait des petites apparitions dans ses films parce que j'adorais ça et j'aime vraiment jouer. Et là, de faire mon premier grand rôle avec elle, bah, ça m'a juste permis d'être en confiance complètement et de me laisser aller. Elle m'a dirigée, bah, comme personne ne pourrait mieux le faire, vu qu'elle me connaît tellement par cœur que elle sait quand elle m'entend complètement quand dès que je suis un petit peu fausse ou quoi que ce soit. Et vraiment, elle m'a permis de ne pas jouer, quoi. C'est-à-dire d'être moi-même, mais devant une caméra et de pas en ni être fausse ni être quoi que ce soit, vu que c'était moi, quoi. C'est donc non, pour un premier film, c'était fantastique. Et d'avoir une deuxième maman qui s'occupe de moi sur le tournage, le fait que Sandrine ait aussi une fille et qu'elle ait toute la sensibilité d'une mère avec moi, ça ne peut que être encourageant, quoi, et te mettre en confiance, qui était génial.
Le rendu est très beau à l'écran. Bravo Thaïs pour ce premier grand rôle au cinéma. On va écouter la bande-annonce. Mon bébé, c'est mercredi au cinéma. Écoutez.
Arrête de me filmer, c'est quoi ce nouveau délire ?
Je me fais des souvenirs.
Pourquoi ?
Pour quand tu seras partie. C'est qu'elle est acceptée, ta sœur.
Où ?
Bah, au Canada.
Ah cool, c'est bien.
Non mais elle va te manquer, hein, crois pas. Hein.
Maman, arrête de filmer.
Et moi, pourquoi tu me filmes pas ?
Oh la fatigue. Pff, c'est juste que quand t'es partie, il m'en restait deux à la maison. Là, elle part, je suis toute seule. C'est pas tellement la même sensation, quoi.
Non, t'en avais rien à foutre de moi, en fait.
Oh, tu m'emmerdes ! Oh mais l'ingratitude !
Salut !
Nous, on est là pour tout, pour tout, pour tout ! Vous voulez de l'aide pour la fumette ou comment ça se passe ? Non, tu sors pas, chérie.
Bonne nuit.
T'es irresponsable ! Je suis affolée, là ! Je vais m'inscrire à Tinder.
Et t'es totalement folle.
C'est quoi ton prénom ?
Je m'appelle Héloïse. Il m'attend là-bas.
Te retourne pas !
T'es beaucoup trop belle pour ça. Je suis trop belle, en attendant, j'ai pas de mec.
Ça, c'est parce que tu nous aimes trop, tu vois. Ça prend de la place.
Alors, Lisa, est-ce que ça serait pas un brin autobiographique, un peu, ce film, quand même ?
On est carrément sur du biopic, hein, là. C'est mon biopic. Après ce film, je n'ai plus rien à dire. J'ai tout mis dans mon film. Il m'est plus rien arrivé depuis. Voilà. Faut le temps que la cuve se remplisse un peu à nouveau, quoi.
Maintenant, il va appartenir au public dans deux jours. Voilà, ça va être aussi une autre histoire. Sandrine et Thaïs, c'était évident, toutes les deux. Ce duo, vous l'aviez déjà en tête ?
J'ai écrit avec ce duo en tête. Sandrine, je sais tout ce qu'elle peut donner, tout ce qu'elle allait apporter. Je pouvais pas imaginer que ce serait autant, mais j'étais sûre que c'était ça, quoi. Si elle m'avait dit non, je sais pas si j'aurais fait le film, en fait.
C'est le plus beau rêve quand on écrit avec des acteurs en tête et qui disent oui.
Ah oui, ça c'est...
Ça n'a pas eu le choix.
Ouais. Non, ben moi, de toute façon, elle m'aurait pas laissé prendre quelqu'un d'autre, hein, faut pas croire. Elle fait la douce, là, mais si j'avais voulu prendre quelqu'un d'autre, elle se serait sérieusement mise en travers de ce chemin-là. C'est une énorme chance pour n'importe quel réalisateur en France de tourner avec Sandrine. C'est un vrai cadeau qu'elle fait. Hein.
En plus, Sandrine, moi, je l'adore en comédie et elle peut nous faire une palette, effectivement, de personnages et aller dans des émotions complètement inverses qui sont assez, assez bluffantes, c'est vrai, dans ses rôles. Sandrine, quelle a été pour vous la scène la plus drôle à tourner, justement ?
Ah, la scène la plus drôle à tourner.
Avec Kian.
Ah ouais. Avec Kian dans l'espèce de cagibi de la maison où il fallait rentrer sur la pointe des pieds et pas réveiller les enfants. Je ramène un gars à la maison
qui est par Kian que j'en dis.
Voilà, donc c'est déjà voilà, vous avez déjà un avant-goût de ce que ça peut donner.
Bref, la scène est drôle.
Oui, la scène nous a même dépassé parce qu'en fait on l'a fait presque en plan séquence. Ça veut dire en un seul plan, tellement la situation était très mise en scène. Il fallait évidemment que je dégage tout un canapé, qu'on ait accès à ce canapé et tout se casse la gueule et la rencontre foire complètement. Et on a eu vraiment un moment de grâce, quoi. Il y a des moments comme ça sur les tournages où on a tellement ri, mais j'en pouvais plus.
Une scène très drôle aussi, c'est ce monologue. Quand les enfants claquent la porte et qu'elle continue à parler, comme ça, est-ce qu'il y a eu un brin d'improvisation, justement, dans cette scène où tout était vraiment écrit au cordeau ?
Là, il y a eu un brin de muguet, un gros brin de muguet qui est venu s'interposer.
On est sur un bras de c'est pas un brin, c'est un bras.
Pour une actrice, c'est génial que quand la réalisatrice vous connaît bien, elle vous aime, et que tout à coup, elle se dit, bon, je vais laisser tourner là parce que je sens qu'elle va nous inventer un truc. À partir du moment où la porte a claqué, elle est restée sur moi, et je me suis dit, mais pourquoi elle coupe? Enfin, tout ça, c'est de l'inconscient. Moi, j'étais totalement dans la situation. Moi, j'ai prolongé. Elle aurait pu dire couper. Je prolongeais quand même sur le fameux monologue qu'on a dans la vie quand la porte claque et que on se sent victime, incomprise, tout à coup, alors qu'on a l'impression d'être la meilleure mère de la planète. Claque la porte nez, trahie par nos enfants, et elle dit, et voilà, jamais merci, jamais de rien. Et puis ça se met ensemble, c'est solidaire. On n'a jamais grâce à leurs yeux et tout ça. Alors là, Lisa, c'était elle buvait du petit lait, elle a tout gardé. Et quand j'ai vu le film fini, je me suis dit, ah bah voilà, bah donc elle a été là où il fallait. En fait, les acteurs, il faut que le metteur en scène soit là où il faut, ce qui n'est pas du tout gagné. Hein.
C'est une alchimie entre le réalisateur et l'acteur.
Moi, je suis jamais tombée sur une actrice qui a autant d'humour. C'est-à-dire, si tu laisses improviser quelqu'un qui est lourd, il vaut mieux dire couper tout de suite aussi. Hein. Là, c'est juste que ces dialogues prolongeaient les miens, mais tellement mieux que j'étais. C'est un cadeau en fait qu'on me fait, parce qu'après les gens croient que c'est moi qui ai écrit, donc c'est bien quoi.
Et bien, en tout cas, je vous dis bravo à toutes les trois. Merci d'avoir été avec nous. Mon bébé, ça sort mercredi dans les salles. Et un petit clin d'œil au film. On va se quitter avec La Rousseau. Tu m'oublieras.
Ah, là là. Ah bah merci.
Quelle joie.
Bah j'espère que vous m'oublierez pas déjà.
On va pas vous oublier. Et on va se quitter avec La Rousseau parce que c'est un petit clin d'œil au film. Pour ceux qui iront voir le film au cinéma, vous comprendrez bien évidemment. Merci à toutes les trois.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
C'était top. Merci.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, on fait une petite pause dans 3 minutes. On revient évidemment avec tous nos coups de cœur télé de la semaine. On parlera d'Illégitime avec Thierry Novick et toute l'équipe, des Bracelets Rouges avec Mathieu Madénian. Et puis plein d'autres surprises évidemment. Et notre deuxième coup de cœur ciné en dernière partie d'émission, consacré à Rebelle, Alan Mauduit, Cécile de France et Audrey Lamy, seront avec nous. Alors à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chute, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, vous le savez, c'est le retour des Bracelets Rouges sur TF1 pour une toute nouvelle saison inédite. Très très attendue après le gros succès de la série l'année dernière. Et on est avec Mathieu Madénian justement qui va venir nous en parler. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est un vrai souffle, la première saison que tu nous as amené dans cette série où, au sujet parfois lourd et qui a permis voilà quelques petites fenêtres d'aération avec le personnage de Cécile Rébois et son fils plongé dans le coma.
Ouais, alors je savais pas que ça aurait cet effet-là, parce qu'à la base mon personnage devait faire que la saison 1 en fait. Et comme les gens sont attachés à ce couple naissant et à cette espèce de type un peu hypochondriaque qui vient foutre un petit peu le bordel dans la vie de Cécile, ben en fait ils ont prolongé leur histoire donc de la saison 2, donc j'étais plutôt agréablement surpris. Mais c'est vrai que oui, apparemment ça a donné un souffle, une espèce de truc un peu gay à la série qui est assez lourde. Ouais. Tant mieux, hein, tant mieux.
C'est une très belle série en tout cas. Ça doit être une fierté de participer à un projet comme celui-là.
Ouais, c'est vrai que il y a tellement de projets un peu légers, un peu pas terribles. Là, le scénario est top, le réalisateur est vraiment bien, les images sont bien, les comédiens jouent juste, donc c'est vraiment moi là-dedans. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Donc voilà, je prends ça comme un bonus, en fait. C'est comme un loisir.
Je crois que la relation dans cette nouvelle saison avec Cécile Rébois va évoluer, hein. Je crois que là, ça va conclure ou pas? Allez.
Je me la tape, ouais, je me la tape.
Carrément, voilà, n'y allons pas par quatre chemins.
Mais ouais, on s'est vachement rapprochés. Après, je vais me retrouver confronté à la maladie de son fils. Et là, on va être plus dans le réel, en fait. Parce que tu peux pas non plus faire une histoire totalement légère avec une femme dont son fils est dans le coma, quoi. Donc, à un moment donné,
j'espère qu'il va en sortir un jour du coma.
Suspense.
C'est Félix Bossuet hein, qui joue le rôle là. Ça, ouais, et le petit Félix, c'est absolument incroyable. Et c'est vrai que le voir allongé sur slip en 8 épisodes, bonne gens n'a envie qu'une d'une chose, c'est qu'il se réveille.
Ouais. Non, il est. La star de cette série, c'est les gamins à la base. Ouais. Donc, et tous les gamins jouent juste. C'est ça qui est incroyable.
T'as un souvenir de tournage un petit peu plus douloureux, une scène que tu appréhendais un petit peu, où t'as dû faire passer peut-être plus d'émotions?
En fait, ce qui est un peu déstabilisant, c'est jouer dans un hôpital, en fait. Parce qu'en fait, c'est deux mots qui vont pas ensemble. Jouer dans un hôpital. Et on jouait dans des vrais hôpitaux où il y avait des gens qui étaient malades, en fait.
Ouais. Et en Nouvelle-Aquitaine, d'ailleurs, hein, du côté d'Arcachon.
Ça, on a tourné aussi en banlieue parisienne. Et donc, tu te retrouvais avec en coupé, parce qu'il y a un mec qui sort d'opération. Et donc, il y a un truc qui est assez paradoxal, c'est que tu te prends la tête pour savoir est-ce que c'est j'ai le bon ton, est-ce que j'ai et t'as un mec qui passe avec un tut 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 à côté, tu fais bon, ça va, j'ai la belle vie en fait. Donc il y a un côté un peu plombant de jouer dans un hôpital, mais un côté qui te fait vachement relativiser les choses. Mais c'était assez rigolo le fait de jouer dans un hôpital, c'est vraiment pas un endroit où on joue en fait.
Cécile Rebois, une super partenaire en plus, vous devez bien rigoler quand même tous les deux.
Cécile, oui. Oui, de toute façon, ça ne marche que si notre couple marche, c'est que déjà ça fonctionne à l'écran, mais ça fonctionne aussi dans la vie et qu'on se voit vraiment pas souvent, mais qu'on se voit, on se marre et c'est quelqu'un de, c'est déjà une grande comédienne, c'est quelqu'un qui se met au service de son partenaire, ce qui est rare, et c'est quelqu'un de généreux quand on joue, c'est-à-dire qu'elle s'en fout de savoir si elle a plus de dialogue ou pas, ou si l'important c'est que la scène soit réussie et que le couple marche, donc c'est assez rare en fait. C'est un métier d'égoïste et elle est tout le contraire de ça.
Alors tu vas revenir bientôt à la scène aussi à partir du mois de mai. Hein. Tu te ouais. donnes jusqu'au mois de mai pour travailler sur ton nouveau spectacle. Ouais. T'es en train de bosser comme un fou pendant tout cet hiver. Hein.
J'espère faire. Ouais, je serai au Stade d'Avignon au mois de juillet pour bien roder. Et on va faire la rentrée sûrement au Théâtre du Rond-Point à Paris.
Et puis en tournée après dans toute la France.
Ah, oui, là c'est reparti. Hein. 3 ans de le saltimbanque. Mon vrai métier c'est ça.
Eh oui, clairement. Bon, les bracelets rouges en tout cas, c'est le grand retour sur TF1. On retrouvera évidemment avec plaisir ce rôle de Romain. On va te voir un petit peu plus que la saison dernière ouais. ou à peu près pareil.
Non, j'ai un peu plus de, j'ai pu négocier des cachets un peu plus élevés au niveau de la thune.
Et mon c'est le principal.
Oui,
on a. Il est bon, t'es un bon agent.
Thunasse. Non, oui, il y a un peu plus. J'ai un peu plus de, il y a un peu plus de présence, ouais.
Bon, mais en tout cas, on va te retrouver avec plaisir. Merci à toi, Mathieu. Et puis dès que ton spectacle est prêt, on est sur Errant, hein, on te soutiendra évidemment, tu le sais.
Pas de souci, avec plaisir.
À très vite.
Ça marche.
T'es arrivé quand ?
Ce matin.
Ah ouais, mais l'hôpital, tu sais pas ce que c'est. Ici,
on est tous malades, donc on se soutient les uns les autres.
C'est ça, les bracelets rouges.
Mehdi, c'est ça ? Salut.
Elle est trop belle. Ah, je crois que je vais la chérir.
C'est l'occasion, on fonce, Mehdi, là.
Tu te foutrais pas un peu de ma gueule, là ?
T'es en fauteuil, maintenant.
Je voulais me mettre à ton niveau.
J'ai les RM à passer tout à l'heure, faut pas que je m'énerve.
Pense pas trop à la belle-mère Thomas, alors.
Je suis calme. Je suis zen. Je t'écoute plus. Je suis dans mon monde.
Je sais pas si on vit pour servir à quelque chose. On vit, c'est tout.
Pas que tu perds espoir. Pour chaque bracelet, un jour qui s'écoule, ce n'est pas un jour de perdu. C'est un jour de gagné.
Les Bracelets Rouges, la série qui a bouleversé la France, revient prochainement sur TF1.
Allez, on va parler maintenant de la fiction qui débarque cette semaine sur France 3, qui s'appelle Sous la peau, avec Nicolas de Saint-Méloc, qui est avec nous, qui est le producteur de cette mini-série. Bonjour Nicolas.
Bonjour Alain, merci.
Et comme Nicolas n'arrive jamais seul, eh bien, on a notre deuxième Nicolas, un habitué de l'émission, un sociétaire presque, c'est Nicolas Gobbe. Bonjour Nicolas.
Salut à tous.
Merci d'être avec nous. Alors, on va parler un petit peu de cette mini-série. C'est une mini-série en 3 fois, 52 minutes, qu'on va voir sur France 3. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire de base ? Qui c'est qui s'y colle ? Nicolas, au hasard ?
C'est une histoire qu'on pourrait lire comme un polar, mais également une qu'on pourrait tourner, enfin regarder comme un film autour d'une femme qui doit faire face à une maladie, un cancer du sein.
Incarnée par Anne-Marie Vin.
Incarnée par Anne-Marie Vin, qui est impérieuse et qui ne lâche rien, ne baisse jamais la garde. Elle commence à la fois par une enquête extrêmement compliquée et le retour d'un collègue incarné par Nicolas Gobbe. Et à côté de ça, elle commence une thérapie contre le cancer. Donc c'est une femme qui fait face à 2 combats, 2 fronts, et qui ne lâche rien, qui se bat sans relâche. Pour moi, ce film, c'est la preuve qu'on peut vaincre le cancer en ne se sentant pas victime, en refusant de se sentir victime.
Et en ne s'enfermant pas forcément sur soi-même, en continuant à travailler, à faire des choses.
Tout à fait. Et c'est en travaillant, notamment en acceptant l'aide d'un ancien camarade joué par Nicolas, qu'elle va comprendre que c'est vrai qu'on doit juste accepter, chacun de nous doit accepter sa part de faiblesse tout en combattant sans relâche pour à la fois les victimes des meurtres qui sont commis à Lyon, une grosse criminalité à Lyon dans cette série, mais également pour son combat contre le mal qui la ronge elle-même.
Alors l'histoire commence assez mal hein, dans un photomaton, alors vous verrez, il n'y a pas que des scènes comme ça, heureusement. Nicolas, ton rôle en quelques mots ?
Mais tout d'abord, pour faire suite à ce que Nico vient de dire, ce qui est super avec cette mini-série, c'est qu'on est dans le juste, on est dans le réel, réaliste, ça joue juste, et ça énonce vraiment donc des étapes compliquées de la vie. C'est pour ça que j'ai adoré lire et puis adoré avoir la chance de pouvoir le faire.
On n'est pas sur un format en plus habituel, parce que là on essaie vraiment sur un 3 fois 52 minutes diffusé sur la même soirée, donc en plus là vous allez avoir le droit à une véritable histoire bouclée à la fin de la soirée.
Exactement.
On n'aurait pas attendu une semaine pour avoir la suite.
Mais on pourrait pas, je crois, parce que en fait, c'est tellement haletant, ça monte tellement en pression que, en fait, c'est assez judicieux et bien qu'on puisse tous manger d'un coup. Ça serait compliqué de devoir attendre, en fait, parce que ça monte vraiment très très bien en pression. On a vraiment envie de savoir, vraiment.
Ton duo avec Anne-Marie Vin, comment s'est passée votre rencontre à tous les deux ?
J'y suis aussi allé pour ça, pour jouer avec elle, la rencontrer, avoir la chance de voilà de lui donner la réplique. On tombe pas tous les jours sur des actrices qui donnent autant, qui sont autant dans le vrai. On est obligé de jouer juste quand on est en face d'elle, donc c'est bien, c'est ça fait office d'expérience en plus de rencontrer des actrices, acteurs comme ça, actrices pour le coup extraordinaires. Donc voilà, c'était une très bonne expérience.
Comment on pourrait définir le caractère de ton personnage ?
Animé par une grande tristesse, une extrême tristesse qui ne s'en ira certainement jamais. Qu'il apprend à apprivoiser et c'est marrant parce que le combat que lui vit, ça, je vais pas dire vraiment, je vais pas dire ce que c'est, mais le combat qu'il vit peut faire résonance avec le combat que Marion, Anne-Marie Vin vit dans le film. C'est pas du tout pareil, mais on a besoin de continuer à vivre, on a besoin de travailler, on a besoin des autres pour arriver à surmonter les choses compliquées de la vie. Donc voilà, je crois que c'est
des épreuves.
Voilà, exactement. Sans vouloir faire de la psychologie à deux francs, mais c'est C'est le personnage. Il vit encore malgré lui. Voilà.
Nicolas, alors le producteur, ce coup-ci, alors même si l'histoire est bouclée à la fin de cette soirée, est-ce qu'on peut imaginer une suite sous la peau ?
Oui, je pense qu'on peut tout à fait imaginer une suite. Le public découvrira l'histoire, comme vous l'avez si bien dit. 3 épisodes, c'est à la fois court et en même temps, on prend le temps de commencer à raconter l'histoire d'une héroïne qu'on découvre. Et on pourra tout à fait imaginer sur d'autres enquêtes, peut-être d'un format similaire, continuer avec le personnage de Marion et du capitaine Vidal dans d'autres, voilà, à d'autres moments. Voilà. On pourra imaginer les voir revenir.
Alors ça monte très vite, hein. C'est vrai que le rythme est assez fort hein, sur une série de 3x52 minutes, une mini-série comme ça. Moi j'ai eu la chance de voir le premier épisode avant tout le monde. Vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà, c'est une enquête en tout cas sous haute tension qu'on découvrira cette semaine sur France 3. Merci en tout cas à tous les deux, Nicolas Saint-Méloc, merci producteur de cette mini-série. Merci Nicolas Gobbe d'avoir été avec nous. Ne ratez pas, c'est cette semaine sur France 3. On va se quitter avec un petit extrait. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci, salut, à plus.
On peut se parler, s'il te plaît ?
Juste à toi, j'éviterai.
Écoute, je pouvais pas faire autrement.
Ah, tu vois, là-dessus, au moins, on est d'accord. Tu peux pas faire autrement. T'as les dents trop longues.
Arrête, ça n'a rien à voir. J'étais obligé de lui dire. Tu gardes tout ça pour toi, c'est trop lourd. Il faut que tu laisses quelqu'un t'aider. Je te jure, je sais de quoi je parle.
Non, mais ferme-la. Tu te donnes bonne conscience, là. Tu t'en fous de moi.
Mais non.
Ce que tu veux, c'est ma place. C'est con, hein. C'est Brabant qu'il a eu. Tu vas balancer quoi sur lui ?
Mais putain, il arrête avec ça.
Non, toi, t'arrêtes. T'es pas mon père, t'es pas mon mari, t'es pas mon frère. J'en ai rien à foutre de ta putain de protection. Tu cherches quoi, là ? Me protéger, moi, parce que t'as pas été foutu de le faire avec ta femme ? Mais va te faire foutre !
Allez, on va parler maintenant de la fiction qui débarque cette semaine sur C8, la première grande fiction de primetime, Les Ombres Rouges. C'est presque une saga hein, qui nous attend avec Nadia Farès à la tête de cette saga chorale, avec une fratrie, avec des histoires, des secrets, tout ce que vous aimez en tout cas. Et Nadia est avec nous. Bonjour Nadia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Nadia, vous jouez le rôle de Aurore Garnier, Paoletti, qui est l'aînée d'une grande fratrie. Il y a beaucoup de frères et sœurs, hein, en fait, dans cette fratrie. On va planter un peu le décor déjà pour commencer. C'est une histoire qui oscille entre le passé et le présent.
Tout à fait, qui se passe dans le sud de la France et qui part d'un grand drame qui s'est passé dans l'enfance d'Aurore, à savoir sa mère qui a été tuée sous ses yeux et sa petite sœur kidnappée sous ses yeux. Et Aurore qui va devoir vivre avec cette blessure et faire des choix de vie pour l'aider à faire ce que la justice est cédée elle-même pour faire ce que la justice n'a pas réussi à faire, à savoir résoudre cette énigme, à savoir qui a tué sa mère et surtout si sa sœur est encore vivante. Et voilà, et faire donc ses choix de vie de devenir flic pour faire justice finalement.
Alors c'est très addictif, on est basculé très très vite dans cette histoire puisque c'est au cours d'une enquête, d'une course-poursuite qu'un délinquant laisse tomber une photo et d'un seul coup, et bien sûr cette photo, c'est le portrait vieilli de cette sœur qui a disparu il y a 25 ans, qui ressurgit. Donc on va suivre évidemment tout ce parcours d'Aurore qui va essayer de retrouver sa sœur, qui est persuadée que c'est sa sœur. Et c'est incarné par Manon Azem, que les fans de Section de Recherche connaissent bien et aiment énormément.
Oui, tout à fait. C'est Manon que Aurore va retrouver. C'est vrai que c'est un peu la boîte de Pandore qui va s'ouvrir au fur et à mesure des événements. Des secrets de famille vont surgir, vont apparaître. Beaucoup de non-dits. Et Aurore va devoir slalomer, afin de découvrir qui a fait quoi. Je vais pas tout révéler, mais en retrouvant sa sœur, évidemment, elle va
enfin, des loups, comme on dit.
Exactement. Et puis elle va découvrir beaucoup de choses des membres de sa propre famille auxquels elle n'était pas préparée. En ce faisant, elle va aussi se réparer elle-même et panser certaines blessures, parce qu'on sait très bien que quand la vérité, surtout après des années de quête de vérité, quand la vérité apparaît, c'est aussi une façon de se libérer.
Alors, c'est une histoire qu'on va suivre pendant 3 semaines. Un très beau casting. On y retrouve Antoine Duléry en patriarche.
Oui, qui joue mon père. On a beaucoup ri parce qu'il me dit « on n'est pas si éloignés l'un de l'autre que ça ». Je lui dis « non, quand même, tu fais beaucoup plus âgé que moi ».
Faut pas exagérer quand même.
Et puis Manon et…
Yannick Gautry aussi, qui joue votre frère. Raphaël Langlais, évidemment qu'on peut pas retrouver sans Mehmet Ariski, hein, généralement dans un film. L'équipe des Bleus est de retour.
C'est ça, exactement. Non, c'était une très chouette équipe et franchement, et Cécile Grenouillet et Christophe Duchamp ont fait un très beau casting. Un casting très cohérent.
Tournage dans le sud de la France, qu'est-ce que ça apporte de plus à l'histoire ?
Ça apporte du soleil déjà. Le grand plaisir pour nous tous de tourner dans le sud, qui est une région... Bon, moi je suis une fille du sud, alors je suis une fille de la Méditerranée, je suis peut-être pas la mieux placée pour... Mais c'est un plaisir, on a des lumières extraordinaires, des décors magnifiques. Puis ça crée tout de suite une ambiance chaleureuse et qui contraste bien avec ce drame et ce thriller. Voilà, non, c'était très agréable de tourner dans le sud.
Alors c'est un challenge parce que c'est la première grande fiction événement, la première grande saga C8. On n'avait jamais eu de grande saga comme ça uniquement français. On avait eu Safe avec Michael C. Hall et Audrey Fleurot il y a quelques semaines, mais là c'est vraiment la première grande saga entièrement française produite par H2O.
Oui, exactement. Et on en est très fiers d'ailleurs. On se sent privilégié, on est très heureux et puis surtout on voit le retour des gens. Ça nous fait vraiment plaisir.
Aux premières lectures, pour le coup, d'Aurore, de son caractère, est-ce que vous avez trouvé des points communs avec Nadia ?
Oui, tout à fait, oui. Oui, il y a une grande force chez Aurore et en même temps une grande fragilité. C'est ce qui m'a touchée dans ce personnage. Quand on a des personnages très forts qui finalement ont construit une carapace pour mieux se protéger leur sensibilité, oui, il y a des points en commun. Ben, je suis quelqu'un qui a une certaine personnalité, donc évidemment c'est pour mieux cacher une sensibilité, des fragilités et certainement des blessures.
Alors il y a certaines scènes, ça court très vite même. C'est très physique, hein. Ça a dû être physique quand même comme tournage, non ?
Oui, ça a été physique, oui. Oui, j'ai eu quelques petites chutes d'ailleurs. Mais c'est bien, c'est ce qu'on aime dans les tournages. Chaque tournage est une aventure. Et quand c'est physique, ça l'est, c'est challenging comme on dit.
Nadia, des projets pour la suite en 2019, qu'est-ce qui vous attend, cinéma, théâtre, télévision ?
L'écriture de mon film que je prépare, voilà.
Bien, pour le cinéma ?
Pour le cinéma, oui, tout à fait. Voilà, je ne veux pas en dire plus pour le moment, par superstition, mais on est en écriture, en cours d'écriture de la V5.
Très bien, un tournage idéalement 2020 ?
Si Dieu veut.
C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Nadia Farès, merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas Les Ombres Rouges. C'est la saga événement de cette semaine. C'est sur C8 et vous êtes très vite embarqués dans cette très belle histoire. Merci beaucoup, Nadia.
Merci beaucoup, Alain. Merci.
Faut que je te montre quelque chose, mais c'est confidentiel. C'est ma sœur.
T'as trouvé ça où ?
Dans une perquisition.
Tu veux qu'on retrouve cette femme ?
Clara a disparu. T'es complètement obsédée par ça. Ça nous bouffe et tu t'en rends même pas compte.
Pourquoi tu crois que je suis devenue flic ? Tu peux comprendre que j'ai envie de savoir qui a enlevé ma sœur sous mes yeux ou ça te dépasse ?
Je veux pas que les flics tournent autour de nous.
Je comprends pas que tu fasses ce métier.
J'adore mon métier.
Nous allons vendre le domaine de la Sainte-Victoire.
Une part de la vente vous revient au même titre que vos frères et sœurs.
40 millions.
Je veux pas de cet argent.
Ça serait dommage qu'il n'y ait plus personne pour signer l'acte de vente avec toi.
Ils ont essayé de buter toute ma famille, là !
C'est moi qui m'en occupe. Toi, tu bouges pas !
On m'a pris ma fille pendant 25 ans, c'est pas pour que je la reperde à nous.
C'est qui mon père, putain ?
Inédit. Les Ombres Rouges, la saga événement, mardi 12 mars à 21h sur C8.
Allez, notre coup de cœur télé, évidemment, cette semaine est consacré illégitime. C'est le film qui sera diffusé mercredi sur France 2 et on est très heureux de recevoir l'équipe avec nous, Thierry Novick, qui nous rejoint dans Chut, on écoute la télé. Bonjour Thierry.
Bonjour, merci de nous accueillir.
Ça me fait très plaisir de te revoir dans notre émission, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. En plus, Antonin Ehrenberg, producteur de ce très beau film qu'on verra mercredi. Bonjour Antonin.
Bonjour.
Et Renaud Bertrand qui a mis en image ce film, le réalisateur. Bonjour Renaud.
Bonjour.
Alors merci à tous les trois. Qui a eu l'idée de base de ce film ? J'aimerais bien savoir. C'est Renaud, Antonin, producteur, réalisateur.
L'idée de base vient en fait des scénaristes, Thomas Finkielkraut et Maxime Capran, qui sont venus nous voir avec mon coproducteur Olivier Bibas d'Atlantic Productions, avec cette idée de faire un mélodrame autour du fait divers du bijoutier de Nice, qui nous a lointainement inspirés. Et très vite, Renaud est arrivé pour nous accompagner tout au long de l'écriture, avec France Télévisions évidemment, pour arriver à cette proposition de scénario que nous avons soumise à Thierry Neuvik pour interpréter le rôle principal, et qui nous a rejoint pour magnifiquement interpréter le rôle principal.
Le rôle de Stéphane. Renaud, on plante le décor un petit peu ensemble. Ça commence très fort par un braquage dans un bureau de tabac.
Oui, exactement. Oui. Et ensuite, le premier tiers du film est consacré à raconter un peu la mécanique de comment on en est arrivé là. Il campe les personnages principaux du film et un peu nous explique comment on arrive à ce premier tiers. Là, au terme du premier tiers, on revient à ce braquage et ensuite on voit donc c'est comment c'était, comment c'est et comment ça va devenir. Ce sont les deux derniers tiers du film. Voilà.
C'est voilà les causes et les conséquences. Hein, voilà et un film aussi qui interroge sur la légitime défense. Guy Marchand dans ce film, Rachida Brakni également. Thierry, qu'est-ce qui t'a attiré en premier dans ce projet?
À la lecture du scénario, moi, ce que j'aimais bien, évidemment, le parcours de ce personnage déchiré avec des choix impossibles à faire. J'aimais bien que ce fait divers soit déplacé dans ce contexte-là, c'est-à-dire la banlieue de Lille, dans les quartiers comme ça, dans les endroits un peu à l'abandon où des sortes de drames peuvent arriver. Donc voilà, tout ça me séduisait beaucoup. Et puis j'avais la confiance de savoir que c'est Renaud Bertrand qui allait réaliser ce film-là, parce que c'est assez fragile, c'est des émotions fragiles, c'est des parcours fragiles, c'est sur la brèche tout le temps, ça peut tomber dans des choses. Hein. Et je sais qu'avec Renaud, j'ai une confiance absolue, parce qu'on a déjà travaillé ensemble, que ce serait voilà dans la nuance, dans la subtilité, dans la délicatesse. Donc tout ça m'a intéressé beaucoup. Et moi, j'ai grandi dans les quartiers difficiles, comme on décrit dans ce film. Donc voilà, moi, j'étais content d'en parler. Voilà, c'est tout ce mélange-là qui m'a séduit.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de commerçants, hein, on ne sait pas, mais qui sont attaqués de façon régulière, comme ça, que ce soit au lieu de Paris, mais pas que, hein, dans beaucoup de grandes villes en France, et qui sont des fois dans cette situation-là, qui sont armés en cas, et ça peut très vite déraper. C'est aussi ça que raconte l'histoire de ce film, c'est ce dérapage. Hein.
Absolument, que dire sur ce dérapage? Oui, effectivement, en tout cas, moi, en tant que producteur, il me semble important... parce que produire, faire des films, c'est une prise de parole publique et c'est important d'offrir des débats à ce public, des débats où il est compliqué de prendre position. Moi, j'aime les zones grises. J'aime qu'on se pose des questions et pas forcément qu'on affirme des réponses. Et je trouve que les scénaristes et Renaud et puis l'interprétation par les comédiens, en fait... Et toujours sur cette, on réussit à être toujours sur cette crête et rester en haut de la crête jusqu'au bout pour nous mener à une fin extrêmement ambiguë et très forte émotionnellement.
Mais ce qui est beau dans ce film, c'est qu'on trouve pas la solution à un problème, on vit avec ses problèmes. Et voilà, et comment on fait avec tout ça. Et ça, c'est assez beau dans le film.
Alors, on va écouter un petit extrait, hein, Illégitime, c'est mercredi sur France 2. Et je vous propose aussi un petit extrait avant de revenir avec notre équipe tout de suite dans Chute, on écoute la télé.
Tu mets un paquet de clubs, s'il te plaît? Les moins chers?
Les moins chers.
Ouais.
Les moins chers.
Non, pas un truc de pouilleux, des vrais clubs, papy, s'il te plaît.
7 euros.
Ah, moi, j'ai pas d'argent. Hein. T'as de l'oseille, toi?
Non, ça va, crise.
Mais si,
j'ai pas.
On va faire comment? Tu fais quoi?
Si vous pouvez pas les payer, je vais pas vous les offrir.
Vas-y, lâche un paquet.
Bon, ça va, ça suffit maintenant.
Je t'ai parlé à toi? Bah non. Donc ferme ta gueule. On n'est pas les bienvenus, on dirait. Hein. Garde la monnaie, crevard. Et bonne journée. Au revoir.
Voilà, Illégitime, c'est le film à ne pas rater, mercredi. Voilà, ça permettra aussi de vous interroger un petit peu sur ces cas qui peuvent arriver, qui sont pas forcément isolés aujourd'hui. Renaud, dans la mise en scène justement de cette histoire, comment s'y prépare? Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui ont pu être victimes de ce genre de choses, victimes ou bourreaux d'ailleurs, hein?
Mais j'ai rencontré des gens à Lille qui étaient j'ai plutôt rencontré des gens de côté de la police, de la justice, et aussi des gens qui avaient été victimes de ça, puisque le tabac dans lequel on tournait, les propriétaires du tabac dans lequel on tournait, ont été attaqués comme ça. Donc vraiment, on était vraiment au cœur de l'histoire d'ailleurs. Et donc effectivement, j'ai pu beaucoup échanger avec eux et ressentir cette difficulté qu'ils ont à exister dans des cités un peu en déshérence. Et à essayer, même si c'est très loin de tout ce que je peux, moi, ressentir émotionnellement, essayer de comprendre leur colère et certaines prises de position qu'ils peuvent avoir.
Thierry, le personnage de Stéphane navigue vraiment entre deux eaux pendant toute cette histoire. Alors pendant la première demi-heure, voilà, on découvre son histoire avec sa kinésie, son infidélité. Et puis évidemment, tout bascule et il doit naviguer entre deux eaux pendant la dernière heure du film, en permanence, hein, pour le coup, pour essayer de pas être ni d'un côté ni de l'autre. Mais c'est très difficile de prendre position entre son père d'un côté et sa maîtresse de l'autre, en quelque sorte.
Bah, il prend pas position. Il peut pas. On peut pas prendre position. Il y a l'amour d'un père, il y a l'amour d'une femme. Comment choisir? C'est impossible. C'est un choix impossible. C'est pour ça qu'il cherche une troisième voie, chercher la cause de ça, parce qu'il peut pas choisir. Donc il cherche la cause qui a provoqué ce drame pour tout le monde. Donc voilà.
Il y a eu une scène émotionnellement plus forte que d'autres à tourner pour toi?
Je sais pas, moi je me rends pas compte de ce genre de truc. Je peux le dire quand je vois les images, je me dis ah ça devait être plus dur, mais bon, moi quand je joue un truc, j'ai pas de scène dure ou pas dure. Voilà, je crois à ce que je fais, je crois à ce qu'on fait ensemble. Donc voilà, je le rends. Mais au regard, quand je regarde, oui, je me dis que une des scènes fortes émotionnellement, c'est quand j'apprends à ma maîtresse que c'est mon père qui a tiré sur son fils. Donc là, évidemment, qu'émotionnellement, c'est surchargé. Mais voilà, après, pendant tout le film, tu es chargé. C'est à ce moment-là que voilà, ça sort un peu plus, mais. C'est des rôles chargés d'un bout à l'autre, c'est pour ça que c'est des beaux rôles.
Et au niveau de la mise en scène, comment on dirige les acteurs, justement, Renaud ?
Non, vraiment, moi j'y vais à l'instinct et je sais pas, j'aurais pas vraiment de méthode comme ça à vous expliquer. J'essaie de moi déjà me connecter avec mes émotions, déjà d'être connecté émotionnellement lorsque je tourne, ce qui est pas forcément évident parce qu'on est aussi, on a plein de contingences matérielles à assumer, mais j'essaie déjà d'être connecté à ce que je fais, à la scène, à eux, et puis de les amener d'une manière... qui soit pas trop bavarde, qui soit plus de l'ordre du ressenti qu'autre chose, à ce que j'ai envie qu'il me donne.
Surtout sur une histoire forte comme ça, on peut être tenté de se détendre un petit peu entre les prises, mais on sait qu'en télévision, il faut aller très vite. Vous avez 21 jours pour mettre en boîte un film. Donc voilà, tout va très vite, mais est-ce que ça laisse un petit peu une part voilà de détente entre deux scènes qui peuvent être chargées justement émotionnellement ? Il faut rester concentré, Thierry.
Bah, chacun travaille à sa manière. Hein. Moi, ça dépend des jours. Il y a des jours où vous êtes connecté toute la journée que vous débandez pas entre guillemets, et puis d'autres jours où vous vous permettez parce que vous en avez besoin et puis ça se passe comme ça que vous faites deux blagues entre deux scènes dramatiques. Tout peut se passer. C'est vraiment des questions du moment, d'instinct, de rapport à l'autre. Tout peut se passer sur les journées différentes.
Je sens que Renaud a une anecdote.
Non, j'ai pas d'anecdote. Non, mais moi, je tiens à dire que je suis concentré tout le temps. Je ne débande jamais et que j'adore cet état justement de concentration extrême, y compris dans le sommeil, qui caractérise les périodes de tournage. J'adore ça.
Guy Marchand, comment ça s'est passé, la rencontre ? Est-ce qu'il a poussé un petit peu à chansonnette sur le tournage ?
Je me souviens plus. S'il a dû chantonner, parce qu'il chantonne tout le temps. Donc, oui,
il était destiné un petit peu ?
Non, c'est moi qui lui ai chanté Destiné. Et la passionnata, je lui ai fait un peu. Mais oui, il chante évidemment. Il chante, il raconte des histoires. Puis il a un parcours tellement riche qu'il a des tonnes de choses et d'anecdotes à raconter. Et c'est génial. Mais non, c'était un bonheur. Moi, c'était un rêve pour moi d'être avec lui. C'était facile de le regarder quand il me regarde. Voilà, c'est facile. C'est un bonheur. Il est sublime dans le film.
Qui a eu l'idée de les réunir tous les deux, parce que ça passe super bien à l'écran, le père et le fils, je trouve, Guy et Thierry, ça marche super bien.
Bah, l'idée, elle vient principalement du réalisateur et évidemment en concertation avec la chaîne, avec le producteur, avec les producteurs. Mais ce qui est superbe avec Renaud, c'est que en fait on peut s'ouvrir n'importe quelle idée de comédien, parce que chaque comédien est tellement content de travailler avec lui, d'être dirigé par lui, tout en finesse, en émotion, et j'ai l'impression qu'un comédien travaillant avec Renaud Bertrand donne le meilleur de ce qu'il peut offrir. Et en tant que producteur, c'est évidemment extrêmement grisant de travailler avec ce genre de réalisateur.
Et rassurant aussi, je suis sûr.
Et bien sûr, très rassurant.
Eh bien, c'est un beau rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Moi, je vous le dis, c'est mercredi à 21h10 sur France 2, juste après un si grand soleil. Merci à tous les trois d'être venus nous en parler. Illégitime, c'est mercredi sur France 2.
Le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Voilà, merci à tous nos invités. On se retrouve dans 3 minutes pour notre spécial rebelle. Audrey Lamy, Cécile de France et Alan Mauduit se préparent. On revient, à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
les coups de cœur ciné cette semaine consacrés au film Rebelle qui sort mercredi dans les salles avec Alan Maudoui qui est avec nous, le réalisateur du film. Bonjour Alan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors moi j'ai eu la chance de le voir au Festival de Alpe d'Huez, largement en avant-première, presque 2 mois avant tout le monde. Alors franchement, quel chouette film. On rigole et on passe vraiment un bon moment.
C'était l'idée.
C'était l'idée, j'ai bien vu. Alors l'idée de départ, comment on peut planter le décor? Tiens.
Ah, alors comment on plante le décor? Une très très forte envie depuis très très longtemps de faire un film qui soit comme ça, un petit peu à la croisée des genres, entre la comédie noire, entre le polar, avec un peu de western aussi. Je me disais, c'est quoi aujourd'hui un western? Un western en France, ce serait quoi? Comment ça marcherait? Comment on revisiterait ces codes-là? Voilà, donc déjà il y a ça, il y a cette espèce de d'envie multiple et en même temps avec le sentiment que ça pouvait tout ça pouvait se réunir dans un seul film, je savais pas encore lequel. Après, il y a un jour je suis devant une boîte de thon et je me demande, je sais pas pourquoi je me suis demandé ça d'ailleurs, que je me suis demandé combien il fallait de boîtes de thon pour faire rentrer un homme, pour si jamais on découpait un homme, combien il faudrait de boîtes de thon pour le mettre dedans. Et
vous avez des idées, vous?
Et bah oui, voilà, c'est donc de là, ah tiens, un homme dans des boîtes de thon, donc du coup une conserverie, donc du coup ah tiens, donc des femmes qui mettent en conserve, donc voilà. Et puis là on commence à dérouler des choses. J'ai pris du temps avant vraiment d'attaquer l'écriture du scénario à proprement parler. Je dirais qu'il y a 2 ans de maturation, c'est-à-dire que pendant 2 ans on est sur autre chose. En l'occurrence, j'étais sur Kabul Kitchen, moi, la série que j'avais créée avec Jean-Patrick Bénès et Marc Victor.
Et plusieurs fois Gilbert Mekki et Stéphanie Pasterkamp, d'ailleurs, pour cette série qu'on a soutenue à chaque fois.
Ah, merci beaucoup. Vous avez bon goût.
C'est vrai.
Et voilà, ça, c'est le temps de maturation qui, pour moi, est indispensable. Et puis après, il y a le temps d'écriture, encore 2 ans, avec Jérémy Guez, un très jeune auteur de polar, parce que j'avais envie de jeunesse au scénario, j'avais envie de quelqu'un qui venait pas nécessairement stricto sensu du scénario et donc qui pouvait me proposer des choses un peu folles, un peu dingues aussi. Et puis on travaille ensemble comme ça pendant 2 ans, on écrit le scénario et puis après on envoie aux comédiennes en espérant que Cécile de France dira oui et que Audrey Lamy dira oui et que Yolande Moreau dira oui.
Et là on réunit les 3 sur grand écran, c'est magique.
Et les 3 disent oui aussitôt et là c'est cool. Là, vraiment, c'est cool.
Alors, ça démarre par le retour de Cécile de France, le personnage de Cécile, ancienne Miss Nord-Pas-de-Calais, qui est une institution hein, dans le Nord, les Miss. Et donc, elle revient après 15 ans, et là, elle se fait embaucher, évidemment, dans cette fabrique de thon. Et puis, jusqu'au moment où elle se fait harceler, et là, mais évidemment, tout va partir un peu en sucette.
C'est ça, exactement. Alors, juste un tout petit préambule par rapport à ce début du film. En fait, c'est vraiment un film, c'est un début auquel je tenais beaucoup, c'est ce personnage féminin d'une femme qui aujourd'hui, à 35 et quelques années, a vécu finalement depuis 20 ans de sa beauté finalement et qui a cru que ça pourrait finalement l'amener loin. Et en fait, la désillusion, nous on la prend au moment où elle se rend compte que tout ça ne fonctionne plus, la magie n'opère plus. Et donc c'est assez noir le constat de départ.
On est sur l'humour noir là.
Tout à fait. Et donc, elle revient dans son Nord natal qu'elle avait quitté 15 ans plus tôt en faisant un joli bras d'honneur. Et elle revient habiter chez sa mère dans un mobilhome. Sa mère est gardienne de camping. Et
là, vous allez avoir une surprise parce que pour les fans d'une famille formidable, je vous laisse la surprise, mais Reine pourrait faire son retour, Béatrice Agenin, que moi j'ai eu grand plaisir à revoir en tout cas.
Extraordinaire Béatrice Agenin. Vraiment sublime. Donc il interprète la mère de Cécile de France, une sorte de femme un peu cassée elle-même, mais en même temps une femme sans homme, une femme qui dont on pense et dont on imagine qu'elle a eu beaucoup de déceptions amoureuses, mais qui à un moment s'est un peu construite seule, a fini par voilà, et donc qui est elle aussi une Amazone en fait quelque part. Pour moi, toutes ces femmes sont des Amazones. Même quelque part, Yolande Moreau va finalement prendre un peu son indépendance dans son couple. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est ce que je dis tout le temps, ces femmes font des conneries, mais c'est pas la faute des hommes cette fois. En général, dans les films noirs, c'est souvent la faute des hommes. Là, c'est pas du tout la faute des hommes, c'est elles qui les font, toutes seules, et elles sont suffisamment grandes pour faire des erreurs et les assumer. Voilà, c'est ça qui m'a plu. Enfin, c'est ça que j'avais envie de raconter en fait.
Alors ça, c'est bien beau, on a posé sur le papier les scènes, le film, mais après au tournage, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une scène qui a été plus particulièrement compliquée à mettre en boîte, par exemple? Oh, j'ai fait un jeu de mots là. Quand vous verrez le film, vous comprendrez.
Alors, évidemment, techniquement, en termes de chorégraphie, on va dire la scène la plus compliquée, c'est la fusillade finale. C'est-à-dire que c'est une sorte de gunfight, on appelle ça dans le jargon américain et dans le cinéma, on appelle ça un Mexican gunfight.
On est presque dans un western, hein ?
Exactement. On est vraiment dans le western, d'ailleurs la musique il fait complètement penser. On est dans, avec un solo de trompette. Il se trouve que j'ai fait 2 ans de trompette quand j'étais gamin, j'étais très mauvais. Hein. Mais voilà, j'ai pris ma revanche avec la trompette là. Cette scène-là était à chorégraphier, était extrêmement compliquée, donc... Je suis venu en tournant en studio, donc en fait c'est une énorme fusillade dans un pavillon, donc qui a été reconstitué en studio parce que
j'étais en train de me dire là, le propriétaire quand il a dû voir le décor après, il s'est dit, je sais pas si j'ai bien fait de le louer. Donc en fait ouais, ça a été reconstitué en studio à l'intérieur du pavillon.
Ouais, l'intérieur du pavillon c'est Bry-sur-Marne, donc on est dans les studios et avec des murs qui se déplacent pour pouvoir placer les caméras, avec beaucoup d'artifices placés dans les murs déjà, beaucoup de choses qui sont faites après en effets spéciaux également. On tourne le lundi, mardi, c'est 2 jours, donc la fusillade doit durer 1 minute et on a 2 jours de tournage, donc c'est-à-dire que c'est vraiment un moment très important du film, parce qu'en général on n'a pas du tout ce temps-là pour tourner une scène. Et donc le dimanche je viens avec ma famille, mes enfants, les copains de mes enfants, et je leur dis bah toi tu es Yolande Moreau, toi tu es machin, et on répète comme ça cette chorégraphie que j'avais d'abord storyboardée, et là on l'a répétée en direct, tu te jettes sous le canapé là à ce moment-là, tu te relèves et je filmais un petit peu tout ça et tout ça pour voir comment ça fonctionne. Et puis le lundi matin, tout le monde était là, donc toute équipe, cascadeur, chef op, tout le monde, et les comédiens qui sont très nombreux dans cette fusillade. Et donc là, il a fallu expliquer à tout le monde ce qui allait exactement se passer et avant de partir, quoi, avant d'y aller, quoi. Et après, ça a été 2 jours de folie parce que on tire pas avec des balles réelles, évidemment, mais avec des balles à blanc, donc c'est assourdissant.
En tout cas, c'est le film de Paraté, Rebelle, ça sort mercredi dans les salles. On va écouter la bande-annonce tout de suite. Merci Alan d'avoir été avec nous.
Merci à vous et bon film.
Tu peux commencer quand ?
Tout de suite.
Ah ! Putain !
Ça va ?
C'est l'enfer !
Attends de nettoyer la machine ce soir. Hein.
Ouais, bah ça sera sans moi.
Ça a toujours été une pétasse.
T'es vraiment canon, tu sais.
Il y a combien là-dedans ? Il est mort.
Bon, on a bien vu, merci.
Le problème, c'est qu'il faudrait le sortir d'ici. On peut le sortir petit à petit, hein. Bah quoi ? C'est notre boulot de faire des boîtes. Jean-Mi ou un macro, c'est pareil, non ?
Jean-Mi a disparu avec le pognon des Belges.
Pourquoi tu leur as pas dit ?
T'es con ou quoi ? Tu veux qu'ils fassent des frites avec ma bite ?
C'est quoi tout ce fric ?
C'est rien, Dylan, va te recoucher.
Faut vraiment te calmer, hein.
Dis donc !
Allez, de retour dans Chute, on écoute la télé. On continue à parler de rebelles, hein. Je vous l'avais promis avec Audrey Lamy et Cécile de France qui nous ont rejoints. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on a planté le décor avec Alan, mais maintenant, la première question que j'ai envie de vous poser, évidemment, à toutes les deux, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez lu le scénario la première fois de cette histoire complètement dingue ? Cécile ?
Ah bah d'abord, je me suis dit, ah, enfin, des héroïnes, 3 héroïnes, des vraies, qui sont commandes de l'histoire. Donc ça fait plaisir, parce que ça commence à venir, mais il n'y en a pas encore assez, je trouve. Après, ça m'a fait tout de suite penser à la Belgique, au nord de l'Europe, au nord, là, ça se passe à Boulogne-sur-Mer. Mais il y a quelque chose, parce qu'on est dans un monde prolétaire, populaire. Et puis là, quand on voit le film, c'est vrai que la musique aussi revendique ses racines populaires. Et mon personnage aussi va renouer avec ses origines, parce qu'elle a honte, en fait. Elle est partie, elle a été Miss Nord-Pas-de-Calais, et puis bon, après, il ne s'est rien passé vraiment d'extraordinaire. Donc elle revient, donc pour elle, c'est un échec. Et puis elle est obligée d'aller à l'usine. Elle est avec ses collègues, elle n'a pas envie de sympathiser, donc c'est un personnage assez détestable. Et moi, j'avais très envie aussi de jouer un personnage qui n'est pas sympathique au départ. L'attachement est progressif et après on s'attache beaucoup à elle. Mais voilà, en tout cas, les 3 filles sont un peu embarquées dans une aventure très dangereuse. Et elles sont obligées de se serrer les coudes et on est vraiment avec elles. On a envie qu'elles réussissent leur lutte, quoi, de survie et elles y arrivent, ouais.
Et Audrey, le personnage d'Audrey, toujours à fond.
Ouais, toujours à fond. Moi, quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, waouh, c'est hyper couillu. Et comme dit Cécile, c'est que tu dis, ouais,
c'est cool qu'un homme ait l'idée de d'écrire des rôles comme ça pour les femmes, parce qu'il y en a très peu, on a l'habitude de voir dans les films américains et tout ça, mais je trouvais qu'il y avait déjà à l'écriture un esprit très Tarantino quoi, très western, très marqué comme ça, et je me suis dit c'est génial. Et puis oui, le personnage de Marilyn était super. Mais déjà tous les personnages étaient très caractérisés, très bien définis, et on avait des choses à défendre, des choses à faire, et là je me suis éclatée à trouver le personnage physiquement, parce que voilà, on est quand même très loin physiquement de ce que je suis, enfin de ce qu'on est même toutes, et c'était jouissif à faire. Et puis quand on voit le résultat, on se dit bah qu'on voilà, on espérait en tout cas que ça aille dans ce sens-là, et on a une lumière parce qu'il y a un chef opérateur qui a fait un travail monstre derrière. Il y a voilà, le son qui est dingue, la musique qui est dingue, Alan qui nous a dirigé mais comme un vrai chef d'orchestre, c'est vraiment jouissif à jouer et jouissif à voir quoi.
Vous en prenez plein la tête, hein, toutes les deux, même Yolande, hein, franchement, vous n'êtes pas ménagé du tout dans le film. Hein.
Non, mais en fait, on commet des erreurs aussi, parce qu'on ne sait pas très bien, on ne connaît pas très bien dans cet univers très dur et très masculin, on est maladroite aussi, donc et en même temps, on y arrive, et on revendique notre féminité, et on s'en sort super bien, on n'a pas besoin des hommes pour réussir, on n'a pas besoin des hommes pour commettre justement toutes ces erreurs qu'on fait, et c'est pour ça qu'on s'attache à elles.
Quelle a été la scène qui vous a fait le plus rire? Alors moi, celle qui m'a fait énormément rire, évidemment, et le public aussi, c'est la scène de la fermeture de la porte de vestiaire, je vous en dis pas plus, hein, évidemment, et que ce qui tombe par terre, celle-là, elle est démente.
Elle est démente parce qu'il y a ce côté où on est hyper inquiet de ce qui va arriver à Sandra, parce qu'elle est vraiment en danger, donc c'est très flippant. Et un retour de situation où la comédie prend le pas et ça nous embarque ailleurs, quoi. Et c'est ce que fait Alan tout le long du film, c'est qu'il y a des moments qui sont flippants, grinçants, qui sont voilà, il y a du sang, et puis à côté de ça, il y a de la tendresse aussi, il y a du romantisme, il y a du glamour, il y a plein de choses qui sont très bien maîtrisées et voilà, et qui apportent beaucoup de rythme au scénario et au film, quoi.
Il y a une scène que vous redoutiez le plus?
Par rapport à ce que vous disiez, moi, il y a une scène qui m'a vraiment impressionnée. Ouais. C'est la scène de la fusillade. Ouais. Parce que
Alan me disait à l'instant aussi.
Ils savent très bien le faire. Et nous, on a, en tout cas, je pense qu'on sait tous le faire, mais on l'exploite pas, peut-être pas assez.
Et vous, Cécile?
Moi, c'est le moment où on met Jean-Mi en boîte. Mais bon, là, je spoil un peu le film. Mais parce qu'il y a la musique qui accompagne cette idée géniale. Je pense que peu de réalisateurs auraient osé aller jusque-là. Mais c'est assumé. Et c'est pour ça que... C'est bam dans ta gueule, quoi. Tu le prends dans ta gueule et tu te poses pas de questions. Parce qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de positionnement. C'est direct, c'est, voilà, comme le rock. L'action, quoi. Il y a quelque chose de dynamique. Il se passe tout le temps quelque chose. Il y a des rebondissements toutes les deux minutes. Donc, c'est haletant, ouais.
Et bien, en tout cas, je vous remercie. Toutes les deux, Rebelles, ça sort mercredi dans les salles. Et c'est le film qu'on ne rate pas cette semaine surtout. Merci Audrey, merci Cécile.
Merci beaucoup, merci.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, eh bien nous aurons l'immense plaisir de recevoir les jumeaux. Ils nous ont fait mourir de rire au Festival Escale d'Humour. Et bien d'autres dates arrivent bientôt dans votre région. On en parlera évidemment avec eux donc lundi prochain. Nous recevons également Maëva Elaroussi et Marie-Cotilde Ramos-Ibanez pour la série Ainsi Grand Soleil. Elles incarnent deux personnages clés de la série. Elles viendront évidemment nous en parler. Nous parlerons également à nouveau des Ombres Rouges avec les producteurs de la série de C8 qui viendront nous livrer les petits secrets de fabrication de la série. Nous parlerons également d'Un homme parfait puisque nous aurons le plaisir de recevoir Odile Huillemin et toute l'équipe du téléfilm qui sera diffusé sur France 2. Et puis enfin Une mère sous influence également. Nous aurons le plaisir de recevoir la productrice Mathilde Mufang ainsi que Caroline Anglade et Julie Debona qui seront nos invités. Donc vous l'avez compris, encore un programme chargé lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Chute, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute, on écoute la télé.
J'aurai donc le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine pour Chute, on écoute la télé, la quotidienne sur Attitude à 9h07, 11h07 et 13h07. Et en attendant, je vous donne évidemment rendez-vous pour la grande hebdo de Chute, on écoute la télé dès lundi prochain, 13h, et rediffusé évidemment le mardi à 19h. Alors je vous souhaite une très très belle semaine à tous et une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier régional, élu saveur de l'année 2018. Vos points de vente en Charente sur langélis.com.
Chute, on écoute la télé avec Maison Trio, vos crêpes fabriquées en Charente en vente en grande surface.